Théophraste, les caractères de la brutalité. La brutalité est une certaine dureté, et j'ose dire une férocité qui se rencontre dans nos manières d'agir et qui passe même jusqu'à nos paroles. Si vous demandez à un homme brutal qu'est devenu un tel, il vous répond durement: ne me rompez point la tête. Si vous le saluez, il ne vous fait pas l'honneur de vous rendre le salut. Si quelquefois il met en vente une chose qui lui appartient, il est inutile de lui en demander le prix. Il ne vous écoute pas. Mais il dit fièrement à celui qui la marchande: qu'y trouvez-vous à dire? Il se moque de la piété de ceux qui envoient leurs offrandes dans les temples au jour d'une grande célébrité. Si leurs prières, dit-il, vont jusque aux dieux, et s'ils en obtiennent les biens qu'ils souhaitent, l'on peut dire qu'ils les ont bien payés et qu'ils ne leur ont pas donné pour rien. Il est inexorable à celui qui, sans dessein, l'aura poussé légèrement ou lui aura marché sur le pied. C'est une faute qu'il ne pardonne pas. La première chose qu'il dit à un ami qui lui emprunte quelque argent, c'est qu'il ne lui en prêtera point. Il va le trouver ensuite et le lui donne de mauvaise grâce, ajoutant qu'il le compte perdu. Il ne lui arrive jamais de se heurter à une pierre qu'il rencontre en son chemin sans lui donner de grandes malédictions. Il ne daigne pas attendre personne. Et si l'on diffère un moment à se rendre au lieu dont l'on est convenu avec lui, il se retire. Il se distingue toujours par une grande singularité. Il ne veut ni chanter à son tour, ni réciter dans un repas, ni même danser avec les autres. En un mot, on ne le voit guère dans les temples importuner les dieux et leur faire des vœux ou des sacrifices. De la superstition. La superstition semble n'être autre chose qu'une crainte mal réglée de la divinité. Un homme superstitieux, après avoir lavé ses mains et s'être purifié avec de l'eau lustrale, sort du temple et se promène une grande partie du jour avec une feuille de laurier dans sa bouche. S'il voit une belette, il s'arrête tout court, et il ne continue pas de marcher que quelqu'un n'ait passé avant lui par le même endroit que cet animal a traversé, ou qu'il n'ait jeté lui-même trois petites pierres dans le chemin, comme pour éloigner de lui ce mauvais présage. En quelque endroit de sa maison qu'il ait aperçu un serpent, il ne diffère pas d'y élever un autel. Et dès qu'il remarque dans les carrefours de ces pierres que la dévotion du peuple y a consacrées, il s'en approche, verse dessus toute l'huile de sa fiole, plie les genoux devant elle et les adore. Si un rat lui a rongé un sac de farine, il court au devin qui ne manque pas de lui enjoindre d'y faire mettre une pièce. Mais, bien loin d'être satisfait de sa réponse, effrayé d'une aventure si extraordinaire, il n'ose plus se servir de son sac et s'en défait. Son faible encore est de purifier sans fin la maison qu'il habite, d'éviter de s'asseoir sur un tombeau, comme d'assister à des funérailles, ou d'entrer dans la chambre d'une femme qui est en couche. Et lorsqu'il lui arrive d'avoir pendant son sommeil quelques visions, il va trouver les interprètes des songes, les devins et les augures, pour savoir d'eux à quel dieu ou à quelle déesse il doit sacrifier. Il est fort exact à visiter, sur la fin de chaque mois, les prêtres d'Orphée pour se faire initier dans ces mystères. Il y mène sa femme, ou si elle s'en excuse par d'autres soins, Il y fait conduire ses enfants par une nourrice. Lorsqu'il marche par la ville, il ne manque guère de se laver toute la tête avec l'eau des fontaines qui sont dans les places. Quelquefois, il a recours à des prêtresses qui le purifient d'une autre manière, en liant et étendant autour de son corps un petit chien ou de la squille. Enfin, s'il voit un homme frappé d'épilepsie, saisi d'horreur, il crache dans son propre sein, comme pour rejeter le malheur de cette rencontre. De l'esprit chagrin. L'esprit chagrin fait que l'on n'est jamais content de personne et que l'on fait aux autres mille plaintes sans fondement. Si quelqu'un fait un festin et qu'il se souvienne d'envoyer un plat à un homme de cette humeur, il ne reçoit de lui, pour tout remerciement, que le reproche d'avoir été oublié. « Je n'étais pas digne, dit cet esprit querelleux, de boire de son vin, ni de manger à sa table. » Tout lui est suspect, jusque aux caresses que lui fait sa maîtresse. « Je doute fort, lui dit-il, que vous soyez sincère et que toutes ces démonstrations d'amitié partent du cœur. » Après une grande sécheresse, venant enfin à pleuvoir, comme il ne peut se plaindre de la pluie, il s'en prend au ciel de ce qu'elle n'a pas commencé plus tôt. Si le hasard lui fait voir une bourse dans son chemin, il s'incline. « Il y a des gens, ajoute-t-il, qui ont du bonheur. Pour moi, je n'ai jamais eu celui de trouver un trésor. » Une autre fois, ayant envie d'un esclave, il prie instamment celui à qui il appartient d'y mettre le prix. Et dès que celui-ci, vaincu par ses importunités, le lui a vendu, il se repent de l'avoir acheté. « Ne suis-je pas trompé ? » demande-t-il. « Et exigerait-on si peu d'une chose qui serait sans défaut ?» À ceux qui lui font les compliments ordinaires sur la naissance d'un fils et sur l'augmentation de sa famille, « Ajoutez, leur dit-il pour ne rien oublier, sur ce que mon bien est diminué de la moitié. » Un homme chagrin, après avoir eu de ses juges ce qu'il demandait et l'avoir emporté tout d'une voix sur son adversaire, se plaint encore de celui qui a écrit ou parlé pour lui dire de ce qu'il n'a pas touché les meilleurs moyens de sa cause. Ou, lorsque ses amis ont fait ensemble une certaine somme pour le secourir dans un besoin pressant, si quelqu'un l'en félicite et le convie à mieux espérer de la fortune, comment lui répond-il, puis-je être sensible à la moindre joie quand je pense que je dois rendre cet argent à chacun de ceux qui me l'ont prêté et n'être pas encore quitte envers eux de la reconnaissance de leurs bienfaits. De la défiance. L'esprit de défiance nous fait croire que tout le monde est capable de nous tromper. Un homme défiant, par exemple, s'il envoie au marché l'un de ses domestiques pour y acheter des provisions, il le fait suivre par un autre, qui lui doit rapporter fidèlement combien elles ont coûté. Si quelquefois il porte de l'argent sur soi dans un voyage, il le calcule à chaque stade qu'il fait pour voir s'il a son compte. Une autre fois, étant couché avec sa femme, il lui demande si elle a remarqué que son coffre-fort fut bien fermé, si sa cassette est toujours scellée, et si l'on a eu soin de bien fermer la porte du vestibule. Et bien qu'elle l'assure que tout est en bon état, l'inquiétude le prend, il se lève du lit, va en chemise et les pieds nus, avec la lampe qui brûle dans sa chambre, visiter lui-même tous les endroits de sa maison. Et ce n'est qu'avec beaucoup de peine qu'il s'endort après cette recherche. Il mène avec lui des témoins quand il va demander ses arrérages, afin qu'il ne prenne pas un jour envie à ses débiteurs de lui dénier sa dette. Ce n'est point chez le foulon qui passe pour le meilleur ouvrier qu'il envoie teindre sa robe, mais chez celui qui consent de ne point la recevoir sans donner de caution. Si quelqu'un se hasarde de lui emprunter quelques vases, il les lui refuse souvent, ou, s'il les accorde, il ne les laisse pas enlever qu'ils ne soient pesés. Il fait suivre celui qui les emporte et envoie dès le lendemain prier qu'on les lui renvoie. A-t-il un esclave qu'il affectionne et qu'il accompagne dans la ville, il le fait marcher devant lui, de peur que s'il le perdait de vue, il ne lui échappât et ne prît la fuite. À un homme qui, en portant de chez lui quelque chose que ce soit, lui dirait « Estimez cela et mettez-le sur mon compte », il répondrait qu'il faut le laisser où on l'a pris et qu'il a d'autres affaires que celle de courir après son argent. D'un vilain homme. Ce caractère suppose toujours dans un homme une extrême malpropreté et une négligence pour sa personne qui passe dans l'excès et qui blesse ceux qui s'en aperçoivent. Vous le verrez quelquefois tout couvert de lèpre, avec des ongles longs et malpropres, ne pas laisser de se mêler parmi le monde et croire en être quitte pour dire que c'est une maladie de famille et que son père et son aïeul y étaient sujets. Il a aux jambes des ulcères. On lui voit aux mains des poireaux et d'autres saletés qu'il néglige de faire guérir. Ou, s'il pense à y remédier, c'est lorsque le mal aigri par le temps est devenu incurable. Il est hérissé de poils sous les aisselles et par tout le corps, comme une bête fauve. Il a les dents noires, rongées, est tel que son abord ne peut se souffrir. Ce n'est pas tout. Il crache ou il se mouche en mangeant. Il parle la bouche pleine, fait en buvant des choses contre la bienséance, ne se sert jamais au bain que d'une huile qui sent mauvais, et ne paraît guère dans une assemblée publique qu'avec une vieille robe et toute tachée. S'il est obligé d'accompagner sa mère chez les devins, il n'ouvre la bouche que pour dire des choses de mauvais augure. Une autre fois, dans le temple et en faisant des libations, il lui échappera des mains une coupe ou quelque autre vase, et il rira ensuite de cette aventure comme s'il avait fait quelque chose de merveilleux. Un homme si extraordinaire ne sait point écouter un concert ou d'excellents joueurs de flûte. Il bat des mains avec violence, comme pour leur applaudir, ou bien il suit d'une voix désagréable le même air qu'il joue. Il s'ennuie de la symphonie et demande si elle ne doit pas bientôt finir. Enfin, si étant assis à table il veut cracher, c'est justement sur celui qui est derrière lui pour donner à boire. D'un homme incommode. Ce qu'on appelle un fâcheux est celui qui, sans faire à quelqu'un fort grand tort, ne laisse pas de l'embarrasser beaucoup. Qui, entrant dans la chambre de son ami qui commence à s'endormir, le réveille pour l'entretenir de vains discours. Qui, se trouvant sur le bord de la mer, sur le point qu'un homme est prêt de partir et de monter dans son vaisseau, l'arrête sans nul besoin et l'engage insensiblement à se promener avec lui sur le rivage. Qui, arrachant un petit enfant du sein de sa nourrice pendant qu'il tète, lui fait avaler quelque chose qu'il a mâché, bat des mains devant lui, le caresse et lui parle d'une voix contrefaite. Qui choisit le temps du repas et que le potage est sur la table pour dire qu'ayant pris médecine depuis 2 jours, il est allé par haut et par bas et qu'une bile noire et recuite était mêlée dans ses déjections, qui, devant toute une assemblée, s'avise de demander à sa mère quel jour elle a accouché de lui, qui, ne sachant que dire, apprend que l'eau de sa citerne est fraîche, qu'il croit dans son jardin de bons légumes, ou que sa maison est ouverte à tout le monde comme une hôtellerie, qui s'empresse de faire connaître à ses hôtes un parasite qu'il a chez lui, qui l'invite à sa table à se mettre en bonne humeur et à réjouir la compagnie. De la sotte vanité. La sotte vanité semble être une passion inquiète de se faire valoir par les plus petites choses ou de chercher dans les sujets les plus frivoles du nom et de la distinction. Ainsi, un homme vain, s'il se trouve à un repas, affecte toujours de s'asseoir proche de celui qui l'a convié. Il consacre à Apollon la chevelure d'un fils qui lui vient de naître. Et dès qu'il est parvenu à l'âge de puberté, il le conduit lui-même à Delphes, lui coupe les cheveux et les dépose dans le temple comme un monument d'un vœu solennel qu'il a accompli. Il aime à se faire suivre par un maure. S'il fait un paiement, il affecte que ce soit dans une monnaie toute neuve et qui ne vienne que d'être frappé. Après qu'il a immolé un bœuf devant quelque autel, il se fait réserver la peau du front de cet animal, il l'orne de rubans et de fleurs, et l'attache à l'endroit de sa maison le plus exposé à la vue de ceux qui passent, afin que personne du peuple n'ignore qu'il a sacrifié un bœuf. Une autre fois, au retour d'une cavalcade qu'il aura faite avec d'autres citoyens, il renvoie chez soi par un valet tout son équipage et ne garde qu'une riche robe dont il est habillé et qu'il traîne le reste du jour dans la place publique. S'il lui meurt le moindre petit chien, il l'enterre, lui dresse une épitaphe avec ces mots « Il était de race de Malte ». Il consacre un anneau à Esculape qu'il use à force d'y pendre des couronnes de fleurs. Il se parfume tous les jours. Il remplit avec un grand faste tout le temps de sa magistrature. Et, sortant de charge, il rend compte au peuple avec ostentation des sacrifices qu'il a faits comme du nombre et de la qualité des victimes qu'il a immolées. Alors, revêtu d'une robe blanche et couronné de fleurs, il paraît dans l'assemblée du peuple. « Nous pouvons, dit-il, vous assurer, ô Athéniens, que pendant le temps de notre gouvernement, nous avons sacrifié à Cybèle et que nous lui avons rendu des honneurs tels que les mérites de nous, la mère des dieux. Espérez donc toutes choses heureuses de cette déesse. » Après avoir parlé ainsi, il se retire dans sa maison où il fait un long récit à sa femme de la manière dont toutes choses se sont passées et comme elles lui ont réussi au-delà de tous ses souhaits. De l'avarice. Ce vice est dans l'homme un oubli de l'honneur et de la gloire quand il s'agit d'éviter la moindre dépense. Si un homme a remporté le prix de la tragédie, il consacre à Bacchus des guirlandes ou des bandelettes faites avec de l'écorce de bois, et il fait graver son nom sur un présent si magnifique. Quelquefois, dans les temps difficiles, le peuple est obligé de s'assembler pour régler une contribution capable de subvenir aux besoins de la République. Alors il se lève et garde le silence, ou le plus souvent, il fend la presse et se retire. Lorsqu'il marie sa fille et qu'il sacrifie selon la coutume, il n'abandonne de la victime que les parties seules qui doivent être brûlées sur l'autel. Il réserve les autres pour les vendre. Et comme il manque de domestiques pour servir à table et être chargé du soin des noces, il loue des gens pour tout le temps de la fête, qui se nourrissent à leurs dépens et à qui il donne une certaine somme. S'il est capitaine de galère, voulant ménager son lit, il se contente de coucher indifféremment avec les autres sur de la natte qu'il emprunte de son pilote. Vous verrez une autre fois cet homme sordide acheter en plein marché des viandes cuites, toutes sortes d'herbes, et les porter hardiment dans son sein et sous sa robe. S'il l'a un jour envoyé chez le teinturier pour la détacher, comme il n'en a pas une seconde pour sortir, il est obligé de garder la chambre. Il sait éviter, dans la place, la rencontre d'un ami pauvre qui pourrait lui demander, comme aux autres, quelques secours. Il se détourne de lui et reprend le chemin de sa maison. Il ne donne point de servante à sa femme, content de lui en louer quelques-unes pour l'accompagner à la ville toutes les fois qu'elle sort. Enfin, ne pensez pas que ce soit un autre que lui qui balaie le matin sa chambre, qui fasse son lit et le nettoie. Il faut ajouter qu'il porte un manteau usé, sale et tout couvert de taches, qu'en ayant honte lui-même, il le retourne quand il est obligé d'aller tenir sa place dans quelque assemblée. De l'ostentation. Je n'estime pas que l'on puisse donner une idée plus juste de l'ostentation qu'en disant que c'est dans l'homme une passion de faire montre d'un bien ou des avantages qu'il n'a pas. Celui en qui elle domine s'arrête dans l'endroit du Pirée où les marchands étalent et où se trouve un plus grand nombre d'étrangers. Il entre en matière avec eux, il leur dit qu'il a beaucoup d'argent sur la mer, il discourt avec eux des avantages de ce commerce, des gains immenses qu'il y a à espérer pour ceux qui y entrent, et de ceux surtout que lui qui leur parle y a fait. Il aborde dans un voyage le premier qu'il trouve sur son chemin, lui fait compagnie et lui dit bientôt qu'il a servi sous Alexandre. Quel beau vase et tout enrichi de pierreries il a rapporté de l'Asie. Quels excellents ouvriers s'y rencontrent et combien ceux de l'Europe leur sont inférieurs. Il se vante dans une autre occasion d'une lettre qu'il a reçue d'Antipater, qui apprend que lui, le troisième, est entré dans la Macédoine. Il dit une autre fois que, bien que les magistrats lui aient permis tel transport de bois, qui lui plairait sans payer de tribut, pour éviter néanmoins l'envie du peuple, il n'a point voulu user de ce privilège. Il ajoute que, pendant une grande cherté de vivres, il a distribué aux pauvres citoyens d'Athènes jusqu'à la somme de 5 talents. Et s'il parle à des gens qu'il ne connaît point et dont il n'est pas mieux connu, il leur fait prendre des jetons, compter le nombre de ceux à qui il a fait ses largesses. Et, quoiqu'il monte à plus de 600 personnes, il leur donne à tous des noms convenables. Et, après avoir supputé les sommes particulières qu'il a données à chacun d'eux, il se trouve qu'il en résulte le double de ce qu'il pensait et que 10 talents y sont employés. Sans compter, poursuit-il, les galères que j'ai armées à mes dépens et les charges publiques que j'ai exercées à mes frais et sans récompense. Cet homme fastueux va chez un fameux marchand de chevaux, fait sortir de l'écurie les plus beaux et les meilleurs, fait ses offres comme s'il voulait les acheter. De même, il visite les foires les plus célèbres, entre sous les tentes des marchands, se fait déployer une riche robe équivaut jusqu'à 2 talents, et il sort, en querellant son valet de ce qu'il ose le suivre, sans porter de l'or sur lui pour les besoins où l'on se trouve. Enfin, s'il habite une maison dont il paie le loyer, il dit hardiment à quelqu'un qui l'ignore que c'est une maison de famille et qu'il a hérité de son père, mais qu'il veut s'en défaire seulement parce qu'elle est trop petite pour le grand nombre d'étrangers qu'il retire chez lui. De l'orgueil. Il faut définir l'orgueil, une passion qui fait que de tout ce qui est au monde, l'on estime que soi. Un homme fier et superbe n'écoute pas celui qui l'aborde dans la place pour lui parler de quelque affaire, mais sans s'arrêter et se faisant suivre quelque temps, il lui dit enfin qu'on peut le voir après son souper. Si l'on a reçu de lui le moindre bienfait, il ne veut pas qu'on en perde jamais le souvenir. Il le reprochera en pleine rue, à la vue de tout le monde. N'attendez pas de lui qu'en quelque endroit qu'il vous rencontre, il s'approche de vous et qu'il vous parle le premier. De même, au lieu d'expédier sur le champ des marchands ou des ouvriers, il ne feint point de les renvoyer au lendemain matin et à l'heure de son lever. Vous le voyez marcher dans les rues de la ville, la tête baissée, sans daigner parler à personne de ceux qui vont et qui viennent. S'il se familiarise quelquefois, jusque à inviter ses amis à un repas, il prétexte des raisons pour ne pas se mettre à table et manger avec eux, et il charge ses principaux domestiques du soin de les régaler. Il ne lui arrive point de rendre visite à personne sans prendre la précaution d'envoyer quelqu'un des siens pour avertir qu'il va venir. On ne le voit point chez lui lorsqu'il mange ou qu'il se parfume. Il ne se donne pas la peine de régler lui-même des parties. Mais il dit négligemment à un valet de les calculer, de les arrêter et les passer à compte. Il ne sait point écrire dans une lettre « Je vous prie de me faire ce plaisir ou de me rendre ce service ». Mais j'entends que cela soit ainsi. J'envoie un homme vers vous pour recevoir une telle chose. Je ne veux pas que l'affaire se passe autrement. Faites ce que je vous dis promptement et sans différer. Voilà son style. De la peur ou du défaut de courage. Cette crainte est un mouvement de l'âme qui s'ébranle ou qui cède en vue d'un péril vrai ou imaginaire. Et l'homme timide est celui dont je vais faire la peinture. S'il lui arrive d'être sur la mer et s'il aperçoit de loin des dunes ou des promontoires, la peur lui fait croire que c'est le débris de quelques vaisseaux qui ont fait naufrage sur cette côte. Aussi, tremble-t-il au moindre flot qui s'élève, et il s'informe avec soin si tous ceux qui naviguent avec lui sont initiés. S'il vient à remarquer que le pilote fait une nouvelle manœuvre ou semble se détourner comme pour éviter un écueil, il l'interroge. Il lui demande avec inquiétude s'il ne croit pas s'être écarté de sa route, s'il tient toujours la haute mer et si les dieux sont propices. Après cela, il se met à raconter une vision qu'il a eue pendant la nuit, dont il est encore tout épouvanté, et qu'il prend pour un mauvais présage. Ensuite, ses frayeurs venant à croître, il se déshabille et ôte jusque à sa chemise pour pouvoir mieux se sauver à la nage, et après cette précaution, il ne laisse pas de prier les nautonniers de le mettre à terre. Et si cet homme faible dans une expédition militaire où il s'est engagé entend dire que les ennemis sont proches, il appelle ses compagnons de guerre, observe leur contenance sur ce bruit qui court, leur dit qu'il est sans fondement, et que les coureurs n'ont pu discerner si ce qu'ils ont découvert à la campagne sont amis ou ennemis. Mais si l'on n'en peut plus douter par les clameurs que l'on entend, et s'il a vu lui-même de loin le commencement du combat, et que quelques hommes aient paru tomber à ses yeux, alors, feignant que la précipitation et le tumulte lui ont fait oublier ses armes, il court les quérir dans sa tente, où il cache son épée sous le chevet de son lit et emploie beaucoup de temps à la chercher. Pendant que, d'un autre côté, son valet va par ses ordres savoir des nouvelles des ennemis, observer quelle route ils ont prise et où en sont les affaires. Et dès qu'il voit apporter au camp quelqu'un tout sanglant d'une blessure qu'il a reçue, il accourt vers lui, le console et l'encourage, étanche le sang qui coule de sa plaie, chasse les mouches qui l'importunent, ne lui refuse aucun secours et se mêle de tout, excepté de combattre. Si, pendant le temps qu'il est dans la chambre du malade, qu'il ne perd pas de vue, il entend la trompette qui sonne la charge. « Ah !» dit-il avec imprécation, « puisses-tu être pendu, maudit sonneur qui corne incessamment et fait un bruit enragé, qui empêche ce pauvre homme de dormir ?» Il arrive même que, tout plein d'un sang qui n'est pas le sien, mais qui a rejailli sur lui de la plaie du blessé, il fait à croire à ceux qui reviennent du combat qu'il a couru un grand risque de sa vie pour sauver celle de son ami. Il conduit vers lui ceux qui y prennent intérêt, ou comme ses parents, ou parce qu'ils sont d'un même pays. Et là, il ne rougit pas de leur raconter quand et de quelle manière il a tiré cet homme des mains des ennemis et l'a apporté dans sa tente. Des grands d'une république. La plus grande passion de ceux qui ont les premières places dans un état populaire n'est pas le désir du gain ou de l'accroissement de leurs revenus, mais une impatience de s'agrandir et de se fonder, s'il se pouvait, une souveraine puissance sur la ruine de celle du peuple. S'il s'est assemblé pour délibérer à qui des concitoyens il donnera la commission d'aider de ses soins le premier magistrat dans la conduite d'une fête ou d'un spectacle, cet homme ambitieux et tel que je viens de le définir se lève, demande cet emploi et proteste que nul autre ne peut si bien s'en acquitter. Il n'approuve point la domination de plusieurs, et de tous les vers d'Homère, il n'a retenu que celui-ci. Les peuples sont heureux quand un seul les gouverne. Son langage le plus ordinaire est tel. Retirons-nous de cette multitude qui nous environne. Tenons ensemble un conseil particulier où le peuple ne soit point admis. Essayons même de lui fermer le chemin à la magistrature. Et s'il se laisse prévenir contre une personne d'une condition privée de qui il croit avoir reçu quelque injure, cela, dit-il, ne se peut souffrir, et il faut que lui ou moi abandonnions la ville. Vous le voyez se promener dans la place sur le milieu du jour, avec les ongles propres, la barbe et les cheveux en bon ordre, repousser fièrement ceux qui se trouvent sur ses pas, dire avec chagrin au premier qu'il rencontre que la ville est un lieu où il n'y a plus moyen de vivre, qu'il ne peut plus tenir contre l'horrible foule des plaideurs, ni supporter plus longtemps les longueurs, les crieries et les mensonges des avocats, qu'il commence à avoir honte de se trouver assis dans une assemblée publique ou sur les tribunaux auprès d'un homme mal habillé, sale et qui dégoûte, et qu'il n'y a pas un seul de ces orateurs dévoués au peuple qui ne lui soit insupportable. Il ajoute que c'est aisé qu'on peut appeler le premier auteur de tous ces maux. Et il fait de pareils discours aux étrangers qui arrivent dans la ville comme à ceux avec qui il sympathise, de mœurs et de sentiments. D'une tardive instruction. Il s'agit de décrire quelques inconvénients où tombent ceux qui, ayant méprisé dans leur jeunesse les sciences et les exercices, veulent réparer cette négligence dans un âge avancé par un travail souvent inutile. Ainsi, un vieillard de 60 ans s'avise d'apprendre des vers par cœur et de les réciter à table dans un festin, où, la mémoire venant à lui manquer, il a la confusion de demeurer court. Une autre fois, il apprend de son propre fils les évolutions qu'il faut faire dans les rangs à droite ou à gauche, le maniement des armes, et quel est l'usage à la guerre de la lance et du bouclier. S'il monte un cheval qu'on lui a prêté, il le presse de l'éperon, veut le manier, et, lui faisant faire des voltes ou des caracoles, il tombe lourdement et se casse la tête. On le voit, tantôt, pour s'exercer au javelot, le lancer tout un jour contre l'homme de bois, tantôt tirer de l'arc et disputer avec son valet lequel des deux donnera mieux dans un blanc avec des flèches. Vouloir d'abord apprendre de lui, se mettre ensuite à l'instruire et à le corriger comme s'il était le plus habile. Enfin, se voyant tout nu au sortir du bain, il imite les postures d'un lutteur. Et par le défaut d'habitude, il les fait de mauvaise grâce et s'exerce d'une manière ridicule. De la médisance. Je définis ainsi la médisance, une pente secrète de l'âme à penser mal de tous les hommes, laquelle se manifeste par les paroles. Et pour ce qui concerne le médisant, voici ses mœurs. Si on l'interroge sur quelque autre et qu'on lui demande quel est cet homme, il fait d'abord sa généalogie. Son père, dit-il, s'appelait Sosie, que l'on a connu dans le service et parmi les troupes sous le nom de Sosistrate. Il a été affranchi depuis ce temps et reçu dans l'une des tribus de la ville. Pour sa mère, c'était une noble thracienne, car les femmes de Thrace, ajoute-t-il, se piquent la plupart d'une ancienne noblesse. Celui-ci, né de si honnêtes gens, est un scélérat et qui ne mérite que le gibet. Et, retournant à la mère de cet homme, qu'il peint avec de si belles couleurs, elle est, poursuit-il, de ces femmes qui épient sur les grands chemins les jeunes gens au passage, et qui, pour ainsi dire, les enlèvent et les ravissent. Dans une compagnie où il se trouve quelqu'un qui parle mal d'une personne absente, il relève la conversation. « Je suis, lui dit-il, de votre sentiment. Cet homme m'est odieux, et je ne le puis souffrir. Qu'il est insupportable par sa physionomie. Y a-t-il un plus grand fripon et des manières plus extravagantes? Savez-vous combien il donne à sa femme pour la dépense de chaque repas? 3 oboles et rien davantage. Et croiriez-vous que dans les rigueurs de l'hiver et au mois de décembre, il l'oblige de se laver avec de l'eau froide? Alors, si quelqu'un de ceux qui l'écoutent se lève et se retire, il parle de lui presque dans les mêmes termes. Nul de ses plus familiers amis n'est épargné. Les morts, même dans le tombeau, ne trouvent pas un asile contre sa mauvaise langue. »